Hello Paris, bonjour Brooklyn et bienvenue dans ce nouveau podcast des Nets France. À situation exceptionnelle, podcast exceptionnel, on va revenir sur un sujet assez large qui est donc la saison NBA qui est en suspens, on le sait tous, et de savoir si celle-ci va reprendre ou pas. Aujourd'hui donc l'équipe habituelle, on est avec Quentin. Salut Quentin.
Salut Jonathan.
Comment ça va? Comment se passe ton confinement?
Bah écoute, il se passe plutôt bien. Après, moi, je fais partie des gens qui continuent de travailler. Donc, ma vie s'arrête pas vraiment comparé, j'imagine, à tous ceux qui malheureusement sont chez eux, à qui j'envoie beaucoup de courage. Mais moi, ça va, j'ai la chance de côtoyer du monde au quotidien. Donc, je me plains pas. Voilà. Et toi?
Ah bah écoute, confiné, et c'est peut-être un petit peu plus dur étant donné que je suis dans le milieu des médias et en plus dans le sport, donc étant donné qu'il n'y a plus de sport, c'est compliqué de travailler en ce moment. Mais bon, on fait avec, c'est une situation exceptionnelle. On est aussi avec Thomas, salut Thomas.
Salut Joe, salut Quentin, salut tout le monde.
Comment se passe aussi ton confinement, ton...
Bah écoute, un petit confinement avec un bébé, c'est exceptionnel. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais bon, on n'a pas le choix, comme tu as dit, situation exceptionnelle. On respecte tous ce confinement pour qu'on sorte de cette situation le plus vite possible.
Exactement. Et puis aujourd'hui, voilà, comme on le dit, c'est un podcast exceptionnel. Donc, invité exceptionnel, on est avec Antoine Bancharel. Salut Antoine.
Salut, comment ça va?
Ça va, bah écoute, même question que pour tout le monde. Comment se passe ton confinement?
Un petit peu plus light qu'en France ici, mais on n'est pas forcément rassuré par rapport à la situation et notamment les directives émanant du commandant en chef, en tout cas de Croix.
Alors effectivement, parce que Antoine est correspondant aux États-Unis, il est du côté de New York. Tu es donc, si je ne me trompe pas, correspondant pour Canal Plus Afrique, Sport 24, Le Figaro, Ouest France aussi, Basket Info.
Oui.
Très bien. Donc tu suis au quotidien l'actualité de nos Nets préférés. Donc quelle chance. Après bon, tu suis aussi les Knicks, donc là pas de chance.
Ouais, on va dire qu'on n'est pas toujours gâté au niveau du spectacle, mais bon, c'est vrai que c'est une vraie chance. C'était un petit peu l'occasion de vivre de sa passion, et c'est clair que on va pas se plaindre du tout.
J'imagine qu'en plus le fait que la NBA soit en suspens en ce moment, ça doit être d'autant plus compliqué pour toi, qui es sur place.
C'est clair. C'est un petit peu prévu que tu allais tourner la plupart de ton activité professionnelle là-dessus. Ça peut devenir compliqué, mais on comprend aussi que la situation est bien plus grave qu'un petit cas personnel. Donc ça va.
C'est clair. Et bien, écoutez, on va commencer donc cette émission spéciale. Donc on va se poser la question et savoir si la NBA donc devait reprendre prochainement. Déjà, votre avis. Est-ce que vous pensez? Ça, c'est un point de vue totalement personnel, que la NBA va reprendre cette saison, dans quel cadre, quel contexte, Antoine, à toi l'honneur, puisque tu es notre invité du jour.
Alors, si c'est juste à titre personnel, quelque part, limite, je ne le souhaite pas, parce qu'en fait, elle serait complètement galvaudée, quoi qu'il arrive, si on la reprend là, comme ça. Donc, je préférerais qu'on puisse se sortir de cette situation et attendre pour reprendre une prochaine saison complètement frais, quoi. C'est-à-dire de pas avoir à repartir à zéro, quoi. En ouais, gros, c'est... personnellement, je préférerais ça. J'ai échangé un petit peu, je pense qu'on va évoquer la question un peu physique, médicale, etc., avec quelques experts, et pareil, quoi. Ça serait un petit peu du n'importe quoi de reprendre, en fait. Après, il y a des enjeux financiers, c'est une autre problématique, mais ça me semble pas bon du point de vue sportif.
Mais tu penses que la NBA va quand même essayer de pousser pour essayer de reprendre, comme on peut le voir ici en Europe avec le football
ça représente à peu près un milliard. Bon, c'est toujours difficile à chiffrer, hein, tout ça. Mais ce qu'ils vont perdre si, Il n'y a aucune reprise, donc forcément, s'ils peuvent récupérer quelques millions, quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions, je comprends, hein, c'est leur raison d'exister, de prendre ce genre de décision. Mais en même temps, si on regarde que l'aspect purement sportif en tant que fan, en tant que passionné, en tant que tout ce qu'on veut, ça n'a pas beaucoup de sens.
D'accord. Alors de votre côté, Quentin, Thomas, est-ce que vous souhaitez un retour de la NBA ou vous pensez qu'effectivement ce ne serait pas très sérieux dans cette situation ?
Ben écoute, Jonathan, je pense qu'on est tous pareils et je rejoins Antoine. Enfin, nous, les fans, on aimerait que revoir les matchs, etc. Ça, c'est quelque chose qui nous manque. On en a parlé en off juste avant. C'est vrai que c'est compliqué de s'en passer. Maintenant, d'un point de vue santé, est-ce que ça vaut le coup de reprendre et dans quelles conditions ? Est-ce que des matchs de NBA huis clos, est-ce que ça fait sens ? Si ce n'est d'un point de vue économique. Et il faut penser aussi à la santé des joueurs qui ne jouent pas depuis un mois et demi, etc. Je rejoins Antoine, en fait, pour moi, je pense que la saison NBA, elle ferait mieux de s'arrêter et puis de reprendre sur des bases saines avec un peu plus de recul sur la pandémie qui nous frappe et puis s'assurer que les joueurs soient en bonne santé pour reprendre et surtout qu'ils ne prennent eux aucun risque. Les joueurs, mais aussi le staff, les équipes de télé qui seraient présentes, je pense que le risque à courir est peut-être un peu trop gros. Enfin, si mon point de vue, c'est qu'il faudrait peut-être mieux que ça reprenne pas.
Thomas, j'imagine que toi aussi, tu es.
Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est, on prendrait trop de risques en reprenant, clairement. La santé des joueurs, comme disait Quentin, c'est primordial. On ne peut pas se permettre d'exposer ces personnalités-là, ces joueurs-là, qui eux aussi, pour le business, rapportent énormément. Donc, à un moment, il faut trouver un équilibre et je pense que tout le monde va se poser dans les bureaux autour d'une table. Il va y avoir des joueurs, des coachs, des GM, les grands patrons. Bref, ils doivent se poser les questions, mais clairement, personnellement, je pense que c'est une très mauvaise idée de repartir sur une saison. En plus, ça voudrait dire repartir. À quel niveau ? Parce qu'on s'est arrêté un peu avant la fin de la saison. On repart directement en play-off en figeant le classement. L'intensité play-off, ce n'est pas l'intensité de saison régulière. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs qui vont se péter. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après chaque lock-out, il y a toujours un moment où les matchs ne sont pas terribles, où les joueurs manquent de rythme, où clairement le spectacle il est pas au rendez-vous. Donc moi, je ne suis pas du tout partant pour reprendre cette saison. Passons à la suivante, préparons du mieux que possible la saison suivante, mais là, il faut laisser tomber, je pense. De toute façon, il y a plein de questions aussi médicales. Ça veut dire quoi ? Tester les personnes ? Ces tests-là, est-ce qu'ils sont vraiment utiles pour le sport ? Est-ce qu'ils ne seraient pas mieux ailleurs ? Voilà, il y a plein de questions, je pense, qui vont faire que c'est impossible de reprendre la saison. Mais ça, c'est mon point de vue. Après, est-ce que la NBA fera ce choix-là ? J'en suis pas certain.
Mais alors, on en a beaucoup parlé, chacun vous en avez parlé à peu près dans vos interventions, et je me tourne vers toi, Antoine. La question qui se pose aussi, c'est sur la préparation physique des joueurs, et aussi tout ce qui est données médicales autour des équipes. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être, sur ce sujet-là ?
Ouais, j'ai posé la question à deux personnes, un qui est dans un staff NBA et un autre qui n'est pas dans un staff NBA, mais qui travaille avec des joueurs. Je ne peux pas les citer, notamment parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas le droit normalement de parler à la presse. Il y a des directives de l'NBA qui ont été envoyées. Mais je vais vous dire à peu près ce qu'ils nous ont dit. En gros, déjà, au moment de la reprise, ça va être très hétérogène. En fonction des joueurs, il y en a qui se seront bien préparés, qui vont continuer de bosser, et d'autres non. Du coup, ça donnerait entre 2 et 4 semaines minimum pour se remettre en forme avant même de pouvoir recommencer à jouer. Mais en fait, même avec 4 semaines, c'est sûr qu'il y aura des blessures. C'est obligatoire, plus que des blessures habituelles. Je veux dire des blessures liées à cet arrêt, à cette coupure. Et dans les données qui ont été données, il y a quelqu'un qui dit donc que ce n'est pas tellement la forme physique ou autre qui pose problème, c'est vraiment la santé des tendons. Il faut savoir que quand la NFL avait repris après le lockout, normalement, il y a à peu près 5 ruptures de tendons d'Achille dans une saison NFL. Là, avant même que la saison reprenne, juste le fait de les avoir remis sur le gazon. Ça avait provoqué 12 ruptures de tendons.
Donc, 12 ruptures
de tendons d'Achille pour la NFL. Alors que normalement, c'est 5 sur toute une saison. Là, rien que juste sur la remise en forme, les remettre avant même de commencer le premier match, 12 ruptures de tendons d'Achille. Donc, il faut vraiment faire attention avec tout ça. Et donc, apparemment, surtout du côté des tendons.
Sachant qu'en plus, les tendons d'Achille, c'est la pire blessure pour un joueur de basket. Chiffres assez impressionnants que tu nous donnes là, Antoine.
Pas le même sport, hein, et pas le même nombre de joueurs, etc. Donc, il ne faut pas forcément penser que ça serait exactement le même. Quand on voit l'explosion quand même sur cet exemple-là, on sait que les tendons, c'est quelque chose où il y aurait un vrai souci.
C'est clair. Et puis, en même temps, on voit qu'il y a certains joueurs aussi qui ont des contrats, qui est important. En plus, il y a une free agency qui va arriver en 2020, et on pense aussi surtout à celle de 2021, où de superstars seront sur le marché. Donc, est-ce que ces joueurs-là vont prendre un risque au point de peut-être remettre en cause un gros contrat? Ça aussi, c'est des discussions qui vont, j'imagine, arriver sur la table. De ton côté, Quentin, par exemple, si demain la saison s'arrête, est-ce que tu penses qu'il peut aussi avoir des problèmes au niveau des contrats, à savoir est-ce que cette année va compter dans leur contrat, est-ce qu'ils vont essayer de twister, de trouver une solution pour pas que les franchises se sentent lésées peut-être?
Mais le souci qu'il y a, c'est que les contrats, normalement, Antoine aura peut-être plus d'infos là-dessus, mais pour moi, les contrats sont figés dans le temps. Quand tu signes 3 ans, même si la saison NBA venait à s'arrêter, je ne sais pas s'ils peuvent décaler des contrats ou en tout cas décaler les dates d'échéance d'un an. Maintenant, effectivement, il ne faut pas oublier que les joueurs NBA sont tous en représentation tous les soirs, notamment les joueurs qui sont en fin de contrat ou qui signent des petits contrats. Ces joueurs-là, on vient de les amputer d'une vingtaine de matchs, une petite vingtaine de matchs, un peu plus pour ceux qui auraient fait les playoffs. Et potentiellement, on les prive aussi d'un potentiel contrat l'année prochaine. Donc je pense que la NBA a aussi ce devoir de protéger ses stars, mais de protéger aussi tous ces petits joueurs qui n'ont pas forcément les revenus d'un LeBron James ou d'un Kevin Durant, et de les accompagner en tout cas au mieux vers la free agency ou la saison prochaine. Pour moi, il est évident déjà dorénavant qu'il y a des joueurs qui vont être lésés si la saison s'arrête maintenant.
Mm-hmm. Antoine, de ton côté, tu as des informations concernant justement les contrats des joueurs ou...
En fait, comme ça s'exprime beaucoup en pourcentage de revenus, donc au final, puisqu'il y a des contrats qui sont signés, mais ils sont signés par rapport à un revenu global qui est anticipé. Or, là, on sait que le salary cap, etc., va forcément être impacté à cause du manque de revenus. Donc, ça va avoir des effets sur les contrats des joueurs, sur leurs revenus, notamment sur leur paye, mais aussi peut-être donc sur les contrats futurs, tout ça. Donc, c'est des données qui sont complètement fluctuantes en ce moment, puisqu'on ne sait pas du tout, du coup, quel va être le revenu, quelle va être la perte, quel va être tout ça, quoi.
Et il y a quelques semaines de la free agency, juste, est-ce que ça peut aussi tout chambouler si la fin de saison s'arrête de manière prématurée?
Oui, et notamment, en fait, ça change tout l'écosystème, en fait. Donc, du coup, les rapports ne sont pas les mêmes, les discussions ne sont pas les mêmes, la manière de faire n'est plus la même. Donc, il faudrait voir un petit peu plus avec des agents, etc. Pour l'instant, je n'ai pas trop eu l'occasion d'échanger avec certains. Mais clairement, ça chamboule tout le processus habituel et donc sûrement les résultats.
Et du coup, Antoine, ce que tu disais, c'est très intéressant, c'est que les salaires des joueurs sont calculés sur donc par rapport au salary cap, mais aussi par rapport aux revenus de la NBA, et que ce sont des pourcentages en fait qui sont autorisés, notamment pour tout ce qui est exception, etc. Tous les contrats qui ont été signés avant cette pandémie font référence à une valeur qui risque d'être revue à la baisse. Est-ce que, par exemple, un joueur qui a signé, je pense notamment par exemple à Kyrie et KD, qui ont signé des contrats max ou presque max l'été dernier, est-ce que les valeurs de leurs contrats peuvent être revues à la baisse par rapport à la dégringolade du salary cap, ou est-ce que ça, par contre, c'est figé?
Je ne pense pas que ça va être au cas par cas. Ça va plutôt être, j'avoue que je n'ai pas regardé en grand détail, hein, mais c'est plutôt qu'en fait, si tout le quand ils font leur corps collectif, en fait, il y a une répartition qui doit se faire entre les clubs et les salaires, donc les joueurs. Et tout ça, c'est anticipé par rapport à des données qu'on a, et après, ils rééquilibrent un petit peu. Et ils sont plutôt forts d'ailleurs pour bien anticiper. Mais c'est un peu comme les déclarations d'impôts aux États-Unis. On déclare un petit peu à l'avance combien on va faire. Et si après, à la fin de l'année, on a gagné plus et qu'on n'avait pas assez anticipé ce qu'on devait payer en impôts, on en rajoute. Et si on a payé plus d'impôts, on en reprend. C'est un peu comme l'impôt sur le revenu. Mais clairement, vu que le revenu global est très, 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 très fortement impacté, les joueurs vont devoir faire des concessions. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de rounds de négociations entre le syndicat des joueurs et la Ligue, enfin la NBA, puisque là, ils sont vers un accord sur les prochaines payes. Ils gèrent d'abord le plus urgent, mais forcément, il y a aussi tout le futur, quoi. Mmh.
Non, c'est clair.
Comment ils vont étaler les pertes, parce qu'il y aura des pertes cette année, quoi qu'il arrive, conséquentes. Ils vont donc forcément impacter, du coup, tout le monde, le revenu des clubs et les salaires. Du coup, comment ils vont renégocier ça et comment ils vont étaler des pertes. Et sur la durée, sur les salaires les plus élevés, sur est-ce que ça va être progressif, est-ce que ça va être équitable entre tous les salaires. Mais c'est pas encore réglé tout ça.
Est-ce qu'il ne va pas avoir peut-être à terme, je ne sais pas, c'est une hypothèse comme ça, justement, une augmentation du salary cap, parce que j'imagine que les propriétaires vont devoir mettre un peu la main à la poche pour renflouer un peu les caisses. Est-ce que justement la NBA va pas éviter d'être trop regardant sur les peut-être dépenses de certaines franchises pour essayer de remettre un peu de l'argent dans les franchises. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on va avoir quand même un système économique qui va être complètement chamboulé au sein de la NBA, justement, qui est considéré presque comme une référence dans le monde du sport.
C'est ça. C'est tout va être complètement chamboulé. Donc, on peut pas trop anticiper. Par contre, je vois pas du tout le salary cap augmenter. Je le vois plutôt baisser.
Oui, oui, baisser.
Tolérance qu'ils vont avoir par rapport à ce que les joueurs peuvent vraiment toucher, sachant qu'il y a les pertes.
Non, c'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est effectivement baissé. Passons à nos Nets maintenant. Sans surprise, le camp d'entraînement, il n'y a pas de camp d'entraînement, il n'y a pas même d'entraînement tout court. On sait que l'effectif des Nets a été touché par l'épidémie du coronavirus. Déjà, Antoine, sur place, toi qui vis donc du côté de New York, qu'est-ce qu'on dit sur les Nets, sur leur saison, sur le renvoi de Kenny Atkinson, évidemment l'arrivée de Kyrie Irving, Kevin Durant, bref, quel est vraiment le côté traitement médiatique des Nets? Est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu une place importante de New York à côté des Knicks? On sait à quel point ils peuvent prendre beaucoup de place.
Alors, chaque question est très très importante, donc il faudra peut-être les prendre point par point, et ce sera intéressant de voir un petit peu comment vous vivez le truc aussi en tant que fan. Mais c'est clair qu'en fait, la saison dernière a quand même beaucoup, beaucoup changé de choses. Il faut quand même savoir que la place des Knicks à New York, elle est un petit peu intouchable, à la base. D'accord ? C'est non seulement une des franchises qui est là depuis le début de la NBA, et c'est pas pour vous blesser que je le dis ou quoi, hein, mais c'est pour mettre un petit peu le contexte. Que vous devez bien connaître d'ailleurs. C'est une des franchises fondatrices de la NBA, donc elle est là depuis toujours, à New York, dans Manhattan, et même pour tout New York City. Et c'est le seul sport où il n'y a qu'une seule franchise, historiquement, à la base, pour ce sport, pour le basket. Mm-hmm. Puisque le foot, on a deux, le baseball, deux, des fois trois, en fonction des années, etc. Le hockey, pareil. Donc, et en plus c'est la mecque du basket, donc les Knicks profitent de cette histoire 70 ans et de tout cet effet. Maintenant, ce que les Nets ont prouvé l'an dernier sur le plan sportif, ça marque quand même les esprits. Il y a forcément des nouvelles générations qui arrivent. C'est une ville très internationale, très cosmopolite. Notamment Brooklyn, qui en plus à ce côté attire une population un petit peu différente de celle qui peut exister à Manhattan ou dans d'autres quartiers. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas construire une fanbase, mais la fanbase n'est pas encore tout à fait là. Et y a eu par contre un vrai effet sportif, et puis les gens sont tellement de plus en plus dégoûtés des Knicks. Si ça restera marginal, je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui en masse vont passer de la casquette des Knicks à la casquette des Nets. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est clair.
Antoine, toi, Antoine, excuse-moi, Thomas, quand tu entends ça, effectivement, bon, on n'est pas surpris, effectivement, on est un peu encore dans l'ombre des Knicks, mais petit à petit, on sait qu'on commence à s'imposer et à avoir notre propre identité. Est-ce que toi, tu vois effectivement à terme, d'un point de vue de l'image, en tout cas, tu vois ce développement de la franchise des Nets?
J'espère. C'est une franchise qui bosse bien. Et ça, c'est la première chose à dire, parce que pour construire une identité, il faut que ça bosse bien dans les bureaux. Et là, ça, clairement, ça, c'est ce qui est en train de se passer. On voit que ça commence à attirer. Il a commencé aussi à se créer un espèce de COP au Barclays Center. Donc tout ça, c'est hyper important. Après, ça va venir petit à petit. Ça va pas venir du jour au lendemain. Il faut pas être non plus impatient en se disant, bah, ça doit être maintenant. Les Knicks, ils ont leur histoire. Et effectivement, ça reste une des équipes emblématiques de la NBA. Mais j'ai envie de dire, peu importe, les Nets ne doivent pas s'occuper de ça. Les Nets doivent s'occuper d'eux et construire leur image et construire leur identité. Et je pense que ça va se créer tranquillement. Il ne faut pas être pressé. Il y a eu le déménagement depuis le New Jersey aussi. Ça a été un peu spécial pour les fans. Je sais que Quentin, lui, c'est un fan de l'époque New Jersey vraiment. Donc c'est particulier quand on passe du New Jersey à Brooklyn. Donc tout ça, faut laisser le temps au temps et ça viendra. Mais je doute pas que les fans vont arriver. Je doute pas que les stars sont déjà en train d'arriver et que les résultats vont s'améliorer d'année en année. Je me fais vraiment pas de soucis.
Mais alors, messieurs, je vais vous poser une question qui est claire. Est-ce que tout ce qui se passe en ce moment dans la NBA, est-ce que c'est pas une aubaine entre guillemets pour les Nets, à savoir qu'on avait quitté donc la NBA avec Kenny Atkinson, qui avait été viré à la surprise générale, Kyrie Irving, qui avait annoncé qu'il était blessé jusqu'à la fin de la saison. On voyait des images de Kevin Durant sur le retour, mais pas au point de tout de suite rejouer. Donc, imaginons, malgré tout ce qu'on a pu dire dans le premier quart d'heure de cette émission, que la NBA pourrait potentiellement revenir. Est-ce que vous imaginez peut-être un retour de Kevin Durant, parce qu'il aura eu le temps de reprendre des forces, même de Kyrie Irving, ou pour vous, de toute façon, c'est plié, on ne les reverra plus quoi qu'il arrive. Quentin, vas-y, je te donne la parole, toi qui es le patron.
Déjà, je ne sais pas, je pense que Kyrie Irving, on peut tirer une croix dessus, parce que de toute façon, son retour devait se faire que potentiellement sur le training camp de la saison prochaine, donc plutôt fin d'été, septembre. Maintenant, Kevin Durant, on avait vu passer des vidéos comme quoi il était quand même relativement en forme. Il me semble que c'était Hopkinson qui disait que juste avant l'arrêt de la NBA, il était indéfendable. Bon, après, indéfendable au niveau de Hopkinson, je ne sais pas si c'est défendable en NBA, c'est un autre débat. Mais je ne sais pas en fait si vraiment on pourrait compter sur Kevin Durant si la saison venait à reprendre. On ne sait pas quel impact a eu la suspension de la NBA sur son retour, sur sa rééducation. Je ne sais pas si le joueur et la franchise prendraient le risque d'une re-blessure, d'une rechute. Antoine, tout à l'heure, faisait état d'un constat alarmant en NFL sur les tendons d'Achille. Je pense que Durant, le tendon d'Achille, il connaît plutôt bien, malheureusement. Donc voilà, je ne pense pas… Oui, j'aimerais, enfin moi je vous avoue que si demain la NBA reprend directement en playoff et qu'on affronte les Raptors avec Kevin Durant, je pense qu'on en aura tous l'eau à la bouche. Maintenant, dans l'optique des Nets, c'est des objectifs à venir, je pense que là, on préservera les joueurs et on préservera Kevin Durant.
Ça n'a aucun intérêt, vu ce qui a été fait précédemment, vu les décisions qui ont été prises précédemment, quel intérêt et pourquoi aller prendre ce risque? Je pense qu'on ne le reverra pas et que c'est tant mieux comme ça. Attendons l'année prochaine.
Est-ce que ce ne serait pas un bon moyen aussi de le remettre un peu en jambe pour qu'il arrive un peu à participer et à jouer et à trouver des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers?
Alors, au niveau entraînement, pourquoi pas? Tant que c'est dans certaines conditions, etc. Au niveau match, absolument pas. Il y a une différence énorme entre s'entraîner, entre faire les petits pick-up à Lifetime pendant l'été, machin, tout ça, et jouer un match NBA. Ça n'a rien à voir.
Donc, un match NBA de play-off en plus.
Oui.
Oui, oui, alors là, en plus, un match NBA de play-off, je pourrais la gagner encore, laisse tomber. Non, non, c'est... mais même un match normal. Même un match contre la 30e équipe de la saison.
Genre Linux.
Par exemple, voilà. donc, non. Non, non. C'est... Je vois aucun intérêt là-dessus, le côté compétiteur, machin et tout, mais bon, c'est, on a vu ce qui s'est passé en finale, non.
Ouais. Donc c'est même pas souhaitable, en fait.
Ah non, mais je... Je pense que même si un docteur disait « il peut jouer », moi je suis Sean Marks, je fais « non, il joue pas, il joue pas ».
Mais du coup, je suis d'accord avec toi, Antoine, mais est-ce que t'as pas l'impression que...
Mais franchement, j'arrive même pas à... Après, d'un point de vue de fan, on a envie de le voir jouer, c'est un superbe joueur, etc. Mais non, quoi, non.
Mais du coup, Antoine, excuse-moi, hein, j'ai failli te couper. Est-ce que tu n'as pas l'impression que Sean Marks a un petit peu moins la main sur le côté sportif qu'il a pu l'avoir, notamment avant l'arrivée de ses stars? Et à l'époque où il était avec Kenny Atkinson, les vrais meneurs de l'équipe. Est-ce que t'as pas l'impression que par exemple Durant, s'il décide qu'il va jouer, est-ce que Sean Marks va pas entre guillemets s'écraser en disant bah ok, il veut jouer, il joue.
Alors maintenant c'est ça, c'est qu'on est avec des joueurs qui sont à un tel statut que c'est eux qui décideront.
C'est ça.
Mais il y a quand même une discussion, il y a des choses à dire. Ça reste le GM, il a des arguments. Voilà, mais puis pourquoi, tu vois, si... j'arrive pas à voir la logique, j'arrive vraiment pas à la voir. Après, on peut avoir tort, hein. Mais ouais. ça me paraît tellement bizarre, quoi. Après, sa rééducation s'est superbement bien passée, les images qu'on a vues, qu'il a montrées, puisqu'il y avait du monde autour de lui, engagé pour ça, hein. Voilà, on a vu des belles images, c'est assez bien, ça a l'air très bon. Maintenant, entre être fluide et entre avoir un tendon en bonne santé, c'est pas toujours la même chose, quoi. Puis il y a pas de temps, quoi, c'est tout le reste. C'est tout le reste, la compensation sur l'autre jambe, les mouvements qui sont plus tout à fait les mêmes, tout, quoi. Puis encore une fois, l'intensité d'un match NBA, c'est de l'inconnu, tu peux jamais te préparer à ça, tu sais qu'en y étant que ça se passe. Donc je vois pas comment on peut prendre ce risque.
J'imagine, Thomas, toi aussi t'es plutôt partisan du fait de prendre aucun risque, ou toi justement t'aimerais quand même voir enfin Kevin Durant fouler le parquet du Barclays Center?
Moi je l'ai dit, si on se fait un petit flashback dans tous les podcasts qu'on a fait, j'ai martelé que fallait pas le faire jouer. Mais il ne faut vraiment pas le faire jouer, il ne faut pas craquer là-dessus. J'espère que sa blessure lors des dernières finales vont lui faire prendre conscience que c'est lui qui avait voulu déjà à cette époque-là. Donc peut-être que ça lui a aussi ouvert les yeux sur le fait de se dire parfois, il vaut mieux être prudent. Donc voilà, il y a tout ça, mais il ne faut pas y aller, il ne faut pas prendre de risques. Il y a trop à perdre et tellement peu à gagner parce que, ok, on aligne Durant premier tour contre les Raptors, ça se passe plutôt bien, admettons, allez, on passe un tour, derrière on enchaîne, il y a toutes les grosses écuries encore qui nous attendent. Donc, enfin, la répétition des matchs, l'intensité, c'est je le vois pas comment il pourrait tenir.
Donc pour toi c'est presque une saison à la poubelle, en fait?
Pas à la poubelle, parce qu'il y a des choses à en tirer, il y a des joueurs qui ont émergé, il y a des joueurs qui malheureusement ont probablement perdu leur place cette année, mais on le savait depuis le début de saison, et c'est ce qu'on a dit dans les derniers podcasts, c'était à quoi va nous servir cette saison, à décider qui seront les lieutenants des deux stars pour l'année prochaine, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors pourquoi changer de fusil d'épaule maintenant? Aucun intérêt pour moi.
Donc, pour vous, quel est l'objectif en cas de reprise de la NBA, en tout cas, quel est l'objectif des Nets? C'est essayer d'accrocher une place en play-off et de gagner un ou deux matchs au premier tour. On verrait quand même là dans une certaine stagnation par rapport à l'année dernière, à la même époque.
Ça reste de l'expérience. Pour moi, ça reste de l'expérience des matchs de play-off. Voilà, ça reste des opportunités qui qui reviennent pas tous les jours pour les différents joueurs. Donc ça reste important de les faire pour prendre de l'expérience et être prêt l'année prochaine.
Ok. Bon, Antoine, j'ai aussi une question à te poser, toi qui es sur place. On parle beaucoup, on va encore parler des joueurs avant de passer au staff technique. On avait déjà eu ce débat au sein du podcast sur la potentielle arrivée d'une troisième superstar au sein de cet effectif. Est-ce qu'on en parle un peu du côté de New York et quel est ton avis? Est-ce que tu penses que c'est préférable pour les Nets qui veulent viser une bague, ou pour toi il faut garder quand même ce noyau de cet effectif?
On n'en parle pas beaucoup. Pour deux raisons, c'est que déjà il y avait un vrai noyau à Brooklyn, et aussi comme ils ont quand même pris beaucoup d'argent les deux, il va tellement rien rester que ça devient compliqué après, parce que tu te sépares de qui, tu les entoures de quoi, c'est pas très bon tout ça. Donc moi, quand je regarde les Nets, je me dis bon, déjà l'an dernier, il faut savoir que la qualif en playoff, c'était une très bonne nouvelle, quoi. Tout le monde était vraiment ravi. Donc quelque part, cette année, sachant que Gary a été beaucoup blessé, que Kevin n'était pas là, bon, c'est pas mal, hein, ça, c'est pas génial. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à enchaîner des victoires, en fait, alors qu'ils ont eu 2-3 fois des séries de défaites à 5 ou 6 défaites, ils n'ont jamais réussi à passer les 3 ou 4 victoires d'affilée, donc ça m'a surpris. Par contre, même s'il y a eu beaucoup de blessures, hein, il n'y avait pas de carry, il y a eu du monde. Mais moi, c'est plutôt que j'aurais voulu voir cette superbe culture qui avait été réussie à être mise en place par Sean Marks et Kenny Atkinson, où là, par contre, ils ont mis une fessée monumentale aux Knicks, qui est a priori la raison pour laquelle Durant et Irving signent l'été dernier. Qu'elle soit maintenue, qu'ils se mêlent dedans, qu'ils arrivent vraiment à la faire perdurer, voire un peu florifier avec le potentiel qu'ils ont de l'amener au toit de la NBA. Or, il y a quand même eu pas mal de fritures sur la ligne, et c'est pas pour rien que Kenny Atkinson se barre à mettre entre guillemets, quoi. Parce que ouais, si on le met dans des conditions où il est impensable qu'il reste, c'est pareil que de le virer. Même si ce n'est pas la franchise qui le vire, y a quand même un vrai souci. Hein. Un vrai, vrai, vrai souci. Je ne sais pas s'il n'a pas un peu minimisé d'ailleurs. Mais de l'intérieur, des gens qui suivent les Nets un peu au cœur, quoi, là, il y a un vrai souci.
Dans la gestion du coach, tu nous parles effectivement de…
C'est pas normal d'en arriver à une situation où Kenny Atkinson se barre. C'est absolument pas normal. Il y a eu un vrai, 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 vrai problème. Et ils ne veulent pas en parler. Ils nous font des déclarations… pour noyer le poisson, etc. DeAndre Jordan l'a très très mal pris quand je lui ai posé la question directement. Il y a un gros souci. Il y a un gros souci.
Et ben alors justement, de transition toute trouvée, puisqu'on va parler du staff, plusieurs noms sont revenus dans les médias cette semaine, Quentin, concernant donc l'avenir des Nets, en tout cas sur le banc du Barclays Center. Tu as les noms sous les yeux, Quentin, ou tu veux que je les dise?
Non, je les ai de tête. Donc on a parlé effectivement peut-être de laisser les commandes de l'équipe à Jacques Vaughn. Ensuite, les noms qui sont revenus, c'est ceux de Jason Kidd, de Mark Jackson, notamment. Je crois qu'il y a Steve Van Gundy dedans, il y a Tyronn Lue, et il me semble que c'est à peu près tout. J'ai dû faire le tour. Tu me dis si j'en oublie.
Je les ai sous les yeux. Donc effectivement, on a du Jason Kidd, on a du Jeff Van Gundy, pardon, Mac Jackson, Tyronn Lue, Mike Brown, voilà. Enfin, c'est effectivement Jack Vaughn. En l'état, on laisserait les choses en l'état actuel, même si j'ai du mal à y croire personnellement, mais bon, ça c'est ce n'est que mon avis.
Non, mais. Malgré tout, excuse-moi, je voudrais revenir sur ce que disait Antoine et qui me paraissait très pertinent. Du coup, toi Antoine, de l'intérieur, tu as l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est fragilisé au sein de, je sais pas si on doit dire du front office, mais de la partie basket hors joueur à Brooklyn. Tu as vraiment cette impression là?
Alors,
déjà, c'est très intéressant en fait de revenir sur ce point là, quelque chose qui avait l'air de marcher depuis 2016, et tu parles d'une vraie rupture ou d'une cassure. Je trouve que c'est intéressant juste de revenir là-dessus avant de passer sur les coachs. Excuse-moi, Jonathan.
Non, mais t'inquiète pas.
Je vais juste préciser, par contre, pour ne pas être un imposteur, on est sur place pendant les matchs, etc. On a accès aux vestiaires, aux conférences de presse, etc. Maintenant, moi, je ne couvre pas que les Nets. Hein. Et comme les temps de disponibilité de médias sont un petit peu les mêmes, j'ai tendance à beaucoup plus passer de temps avec toutes les autres équipes qui passent, plutôt que en cumulé, plutôt que juste les Nets. Maintenant, ça, on discute aussi avec les beat writers qui, eux, les suivent à plein temps, qui voyagent avec l'équipe, etc., enfin, qui les suivent sur les matchs à l'extérieur. Donc, on sent un petit peu le pouls de tout ça, même si moi, ce n'est pas ma définition de mon rôle professionnel. Mais oui, franchement, quoi. Est-ce que c'est une rupture totale? Non. Mais est-ce qu'il y a un vrai malaise? Oui. Et encore une fois, c'était pas... Enfin, je sais pas, c'était pas tout n'était pas basé là-dessus, sur cette culture. Il semblait que c'était ça qui avait créé des résultats sportifs inespérés. Il semblait que c'était ça qui avait attiré Kyrie Irving et Kevin Durant. Après, on n'est pas dupes. On sait très bien que c'est le marché de New York qui les attire plus que tout. Et tous les contacts et le réseau professionnel qu'ils peuvent faire sur place. Mais quand même, il y a une logique sportive derrière. Là, il semble qu'il y a eu un clash. La mayonnaise n'a pas bien pris. Et c'est dommage. Et en même temps, on ne peut pas juste rester sur la culture de Brooklyn et tout. Ils ne vont pas rêver de faire la 8e ou 7e ou 6e place pour faire un ou deux tours de play-off tous les ans. Il faut bien aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut des joueurs stars. Mais on aurait voulu voir des joueurs stars qui, et ceux-là sont très bien. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ces deux joueurs en tant qu'observateurs. Mais on aurait voulu quand même que ça se passe un petit peu mieux. Là, il y a évidemment eu des soucis. Kenny Atkinson, c'est pas fascinant.
Mais est-ce que justement, ce que tu dis est très vrai, Antoine, mais en ayant choisi des joueurs comme Kyrie Irving et Kevin Durant qui sont au-delà de la star, on est carrément dans de la superstar baguée et à l'image d'un LeBron James quand il est arrivé au Los Angeles Lakers où il a complètement, on le sait très bien que c'est lui qui a dégagé le coach en place, Luke Walton, c'est lui qui a dégagé tous les jeunes pour essayer de récupérer Anthony Davis et l'effectif est un peu à son image. Est-ce que lorsque tu vas chercher Kevin Durant et Kyrie Irving, tu le sais un peu que c'est eux qui vont prendre un peu les clés de l'équipe pour amener cette franchise de Brooklyn, au moins en finale NBA, parce qu'eux ont cette expérience.
Ben c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est qu'ils ne sont pas vraiment allés les chercher, quoi. C'est que c'est un peu les joueurs qui ont décidé de signer là. Oui. Quoi. Forcément, ils ont dit oui, parce que tu ne vas pas dire non à ces joueurs. Quoi. Mais
disons que quand Sean Marks va chercher...
Je ne viens pas te contredire sur ce que tu as dit. Quoi. Mais c'est juste que, pour être très précis dans le propos, c'est que là, il y a quand même une dynamique qui est pas naturelle et qui continue de pas l'être. Et c'est un petit peu dommage, je trouve que pour l'instant, ça fait un peu des pots cassés. Est-ce que ça veut dire que ça chamboule tout et que ça détruit la maison et tout? Non, mais il y a quelques pots cassés quand même.
Bien sûr. Mais c'est très court-termiste. Hein. Je pense que le projet Nets avec Kyrie Irving et Kevin Durant, c'est un projet sur le long de leur contrat, à savoir sur les 3 ans. Évidemment, l'objectif d'ici 3 ans, c'est d'avoir une bague. Et peut-être que Sean Marks, pour lui, il a pas le temps de devoir vraiment construire quelque chose. Alors, ce qui est dommage, parce que nous, effectivement, en tant que fans des Nets, on avait adoré l'équipe de l'année dernière et c'était la darling de la NBA. Et là, effectivement, on passe un peu. Ça casse un peu tout ce qu'on avait vécu l'année dernière, c'est clair. Mais est-ce que ce n'est pas pour ensuite aller chercher un titre? Il faut voir, c'est l'avenir qui nous le dira.
Clairement.
Pour Antoine,
si ça finit sur une parade, tout le monde sera content quoi qu'il arrive. C'est toujours ça la logique.
Ouais. Antoine, j'ai une question, moi, par rapport à justement cette. Cette alchimie qui a été cassée cette année. Au niveau coaching, parce qu'on est dans le sujet à proprement parler des coachs, est-ce que, selon toi, c'est plus intéressant d'avoir un coach tel que, on va prendre l'exemple de Mark Jackson, qui est connu pour être un vrai meneur d'hommes, pas tellement un grand tacticien, pas tellement un grand coach de système, etc., comme peut l'être Steve Kerr, par exemple, ou Brad Stevens, mais... est-ce que tu penses qu'il faut ce type de coach-là pour encadrer ses joueurs ou est-ce que le problème est plus profond?
c'est toujours difficile parce que même si on les suit au jour le jour, tu n'es jamais vraiment dans le groupe, à voir les entraînements, à voir exactement comment tout se passe, les discussions de vestiaire, tout ça. Donc, il y a des infos qui sortent, ils arrivent à choper, mais c'est toujours difficile de savoir exactement ce qui se passe. Donc, je préfère pas trop m'avancer sur le sujet, surtout qu'il y a un côté un petit peu comme ça, à vouloir prédire des choses. Moi, j'ai un petit peu du mal hein, à construire ce genre de raisonnement. Personnellement, c'est une déformation professionnelle. Maintenant, en termes de souhait, moi j'aurais voulu quelque part que ce soit un mix des deux, quoi. Qu'on arrive à garder cette culture de vraiment construire quelque chose, d'avoir un esprit collectif, d'avoir n'importe qui peut sortir du banc et faire une perf, n'importe qui peut contribuer, et moins ce côté où on veut établir des rôles, on veut forcer les choses à ce que le système devienne comme si, parce que c'est. C'est plus la même dynamique et c'est normal, ça n'est pas rester comme en l'état, encore une fois. L'idée n'est pas de rester à juste jouer un tour de play-off. Mais c'est un petit peu dommage quand même. C'est la manière dont ça se fait pour l'instant. Peut-être que d'ici quelques mois, peut-être que on sera dans une discussion tout autre. Mais là, c'était le sentiment. Quoi.
Selon
ta question des coachs. Alors, on va redire les noms hein, pour voir. Si tu prends Taïlou, en gros, tu dis que tu viens prendre quelqu'un qui a l'habitude de laisser les stars décider. Tu prends Mark Jackson, tu prends quelqu'un qui s'est fait virer de Golden State et ça s'est mieux passé pour eux. Donc, tu prends pourquoi ? Je ne comprends pas trop. Même si je ne dis pas que c'est un mauvais coach, mais où est la logique un petit peu narrative, on va dire, derrière ? Jeff Van Gundy, pourquoi pas? Il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant derrière ça. Laisser Jack Vaughn, après tout, pourquoi pas? Jack Vaughn, ça sort un petit peu des Spurs aussi, quand même. Il y a un lien. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est pas un grand nom. Il a pas vraiment prouvé quelque chose au Magic, mais est-ce qu'il a vraiment eu sa chance? Il y avait un petit peu les deux qui sortaient d'Orlando. Après son passage, c'est un petit peu à voir. Quoi.
Et Jason Kidd, qui est une légende de la franchise.
Voilà, la franchise, le gars a déjà son maillot retiré là où il y a son nom au Barclays Center à chaque fois. Maintenant, c'est marrant. Moi, il m'avait déçu, Jason Kidd, comme coach. J'ai toujours adoré comme joueur, même quand il était. Sur les rotules au Madison Square Garden, il apportait toujours un truc. Et il m'a vachement surpris à finalement pas si bon que ça en coach dans les résultats qu'on a vus. Quoi.
Que ce soit Milwaukee ou Nets, effectivement.
Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'info passer, je crois que c'est Rivers qui a sorti ça cette semaine. À l'époque où Jason Kidd il est coach des Nets, donc sa première année après sa retraite, je crois que c'est au début janvier ou fin décembre. Il passe très très près de prendre une énorme claque dans la tronche de Kevin Garnett. Je sais pas si vous avez vu passer l'anecdote, elle m'a fait beaucoup rire. À la sortie d'un match, en fait, Kidd est rentré dans le vestiaire et Garnett était en serviette, prêt à aller à la douche. Et Kidd, je sais pas, je me souviens plus de ce qu'a dit Kidd dans le papier de Rivers. Et en fait, Garnett s'est retourné et lui a dit « Je suis pas ton pion » ou « Je suis pas un pion » et était à deux doigts de lui en mettre une. Et c'est derrière ça que les Nets, apparemment, enfin Kidd a dû se réveiller à ce moment-là. Et les Nets avaient enchaîné une belle série de victoires sur janvier. Ils avaient fait le push des playoffs. Je sais pas si tu te souviens de ça, Antoine. Pour revenir sur Kidd, j'ai quand même l'impression qu'il a eu Milwaukee derrière où ça s'est plus ou moins bien passé. Il a quand même Giannis a quand même une grosse marge de progression avec lui, je trouve. Et est-ce que là, il n'est pas en pleine belle période d'apprentissage du côté des Lakers avec un gros vestiaire à gérer? En fait, ma question finale, c'est est-ce que tu parlais tout à l'heure d'identité, de continuité, etc. Est-ce que aller sur un coach ancienne école, Mark Jackson, Van Gundy, on parlait aussi d'Anthony à une époque, ce genre de mecs-là qu'on pas mal bourlingué dans la ligue. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme le disait Paul Pierce, aller vers cette nouvelle génération de coachs? Bon, Tyronn Lue en fait partie, même si tactiquement, il est peut-être faible. Mais en tout cas, aller sur des coachs un peu nouveaux ou donner les clés du camion à un assistant comme ça a pu être fait avec Jorger à une époque, qui a été propulsé en NBA avec réussite, etc. Est-ce que c'est pas le moment justement d'insuffler un souffle nouveau dans la NBA? Enfin, moi j'en ai marre d'entendre des vieux noms de coach ressortir à chaque fois, ça me passe partout.
Quand on voit Nick Nurse, ça donne envie. Hein. Après, il n'y a jamais de recette. Quoi. C'est à chaque personne. En fait, c'est des cas individuels dans des contextes particuliers. Tu peux avoir un coach qui ne va pas marcher quelque part, qui va être super bon ailleurs. C'est toujours, toujours, toujours compliqué. Et Jason Kidd, je ne remets pas en cause sa capacité, mais il n'a pas pour l'instant eu de résultats probants. Même s'il y a eu des choses intéressantes dans ce qu'il a montré, on ne peut pas dire que ça a été... assez satisfaisant pour l'instant, alors que c'est un joueur dont on sait tous qu'il a un QI basket absolument phénoménal.
Mais donc, pour Antoine, en tout cas, ce qu'il nous disait, c'est que lui, il imaginait plutôt Jacques Vaughn ou même un Jeff Van Gundy sur le banc. Toi, Quentin, tu serais plutôt pour garder Jacques Vaughn, ou peut-être, là, tu parlais de Jason Kidd, le retour du fils prodigue
Jason Kidd, moi, je t'avoue que ça me ferait kiffer. En fait, il y a plusieurs choses qui me reviennent en tête quand je pense à Jason Kidd. Il y a effectivement son premier passage un peu raté. Je sais qu'il était très brouillé avec Prokhorov et Billy King à l'époque où il a demandé beaucoup plus de responsabilités. On lui a dit, écoute, la porte, elle est là. Il a été à Milwaukee, il a fait des choses plus ou moins intéressantes. Il n'avait pas une équipe qui était dingue à Milwaukee. Donc, il a fait un peu avec les moyens du bord. Milwaukee restait une équipe moyenne à ce moment-là. Là, aujourd'hui, il est en train de développer des compétences du côté des Lakers. Moi, ça me ferait... Enfin, Jason Kidd, il a aussi un côté où... c'est un peu l'idole de Kyrie Irving, quand il était fan de New Jersey, gamin, etc. Et je sais pas, en fait, je vous avoue que juste fermer les yeux 30 secondes, imaginer Jason Kidd en costard... récupérer sa bague en passant juste derrière Kyrie et KD, je vous avoue que ça me fait un peu fantasmer. Maintenant, c'est peut-être du domaine du rêve. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on mette quelqu'un de compétent et pas forcément compétent tactiquement. Enfin, je dis pas que c'est pas une qualité que je recherche, hein, mais on sait que pour aller au bout, il faut quelqu'un qui est capable de mobiliser son groupe, qui est capable de responsabiliser les joueurs. Et je pense que le candidat idéal, il n'est pas forcément de trouver le meilleur tacticien, il est de trouver la personne qui fitera le mieux avec l'effectif. Et surtout, il va falloir le trouver vite, parce qu'on sait qu'un coach dans le choix des joueurs qui vont rester pour l'année prochaine, c'est important. Et je pense que tant qu'on n'aura pas décidé qui on va mettre à la tête de l'équipe, la free agency derrière, elle est... Alors je dis pas que la free agency est lancée en ce moment, mais elle sera en stand-by, en tout cas, je pense, jusqu'à ce que le nom du coach soit choisi.
C'est clair. Effectivement, je pense que ça va beaucoup jouer dans l'avenir des Nets. De ton côté, Thomas, donc, on a eu l'avis d'Antoine, de Quentin. Toi, tu voudrais qui sur le banc des Nets pour la saison prochaine? Ou même cette fin de saison, on ne sait rien.
Écoute, à titre personnel, effectivement, sur la fin de saison, les deux matchs là où Jack Vaughn a coaché, je l'ai trouvé pas mal dans son rôle. Alors, effectivement, c'est quand quelqu'un vient de se faire licencier et que tu prends le relais, les joueurs sont peut-être plus tolérants, plus cool. Mais j'ai plutôt bien aimé. Alors, juste pour rappel, Jack Vaughn, son passage à Orlando, il est quand même Qatar. Au total, c'est 58 victoires pour 158 défaites. Alors, l'effectif et tout, on peut en parler, mais c'est quand même pas glorieux en termes de stats. Après, écoutez, je me suis penché dernièrement sur Mark Jackson et j'ai commencé à chercher un petit peu tout ce qu'il a fait dans sa carrière de coach, parce que sa carrière de joueur, elle n'est plus à présenter. Hein, c'est un des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA, etc. Mais c'est surtout sa carrière de coach. Le gars est hyper controversé, mais c'est un vrai meneur d'hommes, comme je le disais tout à l'heure. Je trouve qu'il faut ça. Avec ces stars-là, en tout cas, avec Kyrie, KD, on connaît leur tempérament. Et un gars comme ça, avec autant de charisme et de caractère, je pense que ça peut apaiser tout le monde. Après, attention, c'est un gars qui a des propos parfois limite, même si ça s'est un petit peu amplifié dans la presse, etc. Pour rappel, il avait soi-disant dit, parce qu'on n'a pas la preuve, mais il aurait dit en gros que qui voulait pas de Jason, de Jake Collins dans son vestiaire. Donc après l'annonce de son coming out. Et donc voilà, c'est ce personnage. Mais moi, ça m'a toujours fait kiffer ce genre de personnage un peu particulier, un peu fou, mais en même temps qui sait tirer le meilleur de ses joueurs. Ce sera peut-être pas parfait tactiquement, il y aura peut-être des erreurs, mais par contre, je sais qu'il va réussir à tirer le meilleur de ses joueurs. Et au moins, il est franc du collier, le gars. Il a ses idées, il naît et il meurt avec.
C'est clair.
Je ne sais pas comment il est vu aux États-Unis. Mark Jackson, ça fait longtemps qu'il ne coache plus, 2014, je crois, la fin avec les Warriors. Je ne sais pas comment il est perçu, mais c'est un sacré personnage pour le coup.
En un mot, Antoine, peut-être comment il est perçu, Mark Jackson, outre-Atlantique.
Ça reste un grand nom, mais est-ce que avec la NBA actuelle, ça peut marcher? C'est une question. Il y a pas à remettre en cause, hein, mais c'est la question que je pose quand même. Et vu ce qui s'est passé pour les Warriors après son départ, disons que ça le décrédibilise un petit peu, quoi, sur certaines choses. Et puis moi je me demande aussi s'ils ont vraiment besoin d'un coach avec une forte personnalité au final. Est-ce qu'il ne faut pas quelqu'un d'un peu qui ne va pas forcément se mettre en avant lui, mais qui sait garder un esprit et qui ne va pas chercher à prendre le pas sur les stars, mais qui arrive à créer un fond de jeu qui les fait briller, du coup ils ne se plaignent pas et ils font leur propre truc, tout en valorisant et en arrivant à faire jouer bien le reste de l'effectif. Et le plus important, c'est gagner. La plupart des joueurs des Nets, de toute façon, n'ont jamais rien eu à faire de leurs stats. Puisque même quand ils marchaient avant l'arrivée de Kyrie Irving et Kevin Durant, c'était le cas. Donc, tu as des joueurs qui n'ont pas besoin de faire des stats. Donc, du coup, tant que tu arrives à les faire gagner, à mon avis, aux Nets, tout le monde sera content. Hein.
C'est pas un peu le profil de Tyronn Lue que tu décris, là?
Je me demande. Mais après, moi, j'ai un vrai souci avec Tyronn Lue parce que c'est vraiment le coach le plus détestable qu'on ait jamais vu en NBA, quoi, par rapport à la presse. Donc moi, j'ai forcément un biais négatif par rapport à ça. Je suis désolé, c'est l'expérience personnelle et c'est pas moi. C'est avec tout le monde. Le gars est absolument exécrable, méprisant. Un pop, je le respecte, même s'il fait des sorties compliquées. Il est jamais injuste, quoi, quelque part, quoi, où on comprend qu'il a pas envie de jouer certains jeux. Mais Tyronn Lue, c'est hallucinant. On n'a jamais vu ça. Il y a un rapport, voilà. Alors c'est pas très important dans le rôle d'un coach, mais il y a quand même beaucoup de presse à New York. Ça peut peut-être poser un petit problème quand même.
On sera plus à ça près avec
Harry. Non, même s'il vous plaît, pas Tyronn Lue, quoi. C'est de l'absence de, parce que Antoine quand même mentionnait mettre des choses en place sur le terrain. Tyronn Lue, c'est pas non plus le coach tactiquement le summum de la NBA, quoi.
Oui, mais disons, je pense qu'aujourd'hui, vu l'effectif des Nets, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un coach tactique? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin plus d'un meneur d'hommes, ou en tout cas quelqu'un qui s'entend bien avec les joueurs? Bon, encore une fois, je refais le parallèle parce que c'est une franchise aussi qui me tient à cœur, les Lakers. Quand je vois ce que fait LeBron James depuis son arrivée, à savoir révolutionner, ou même ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, je mets Spoelstra entre parenthèses, mais il a toujours réussi à former des équipes, pas avec des grands coachs et des grands tacticiens, mais des mecs qui arrivent à insuffler quelque chose, à mettre une bonne ambiance dans un groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, l'effectif des Nets, ils n'ont pas besoin d'un grand tacticien qui va pouvoir réinventer 50 plans de jeu, mais vraiment créer une vraie alchimie entre tous ces joueurs. Donc c'est pour ça que moi, Tyronn Lue, au-delà du personnage qui est effectivement détestable avec les médias et qui a été longtemps décrié pour son absence de sens tactique au sein des Cavs, c'est peut-être un bon nom, qui a l'expérience aussi des finales NBA et d'avoir remporté une bague et d'avoir suggéré des superstars donc comme Kyrie Irving et LeBron James en plus de Kevin Love à l'époque, ou bien Jason Kidd qui aussi aujourd'hui est dans un effectif de superstars aux Lakers et qui connaît la culture net et qui a déjà remporté des bagues en tant que joueur, donc ou en l'occurrence une même.
Après Joe, moi j'ai un petit jeu. Tu prends les derniers, est-ce qu'on peut citer les derniers coachs champions NBA? T'as donc pour le dernier Nick Nurse, force est de reconnaître que c'est un sacré coach de ce qu'on voit, en tout cas le peu qu'on a vu, c'est un vrai coach. Steve Kerr, idem. Après, il y a effectivement, Ty Lue, il est là. Mais il y a qui dans les dernières années Spolstra, Pop, Carlyle. Là, il y a des sacrés clients. Et je passe les Phil Jackson et compagnie. Donc, attention, les champions NBA ont souvent un grand coach. Et ça, c'est... Alors, est-ce que ce sont des grands coachs qui mènent des équipes au titre, ou est-ce que le titre fait qu'ils deviennent des grands coachs? Ça, c'est une autre question. Mais pour moi, ça reste des vrais, 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 vrais tacticiens et des vrais bons coachs de basket. Donc, le coach a son importance et pour moi, c'est une décision primordiale. Il ne faut pas galvauder cette décision-là. Parce qu'effectivement, signer des joueurs, c'est bien. Avoir la bonne personne pour driver ces gars-là, c'est encore plus important.
En fait, derrière juste le coach, c'est surtout un staff. Parce qu'en fait, c'est énormément de boulot pour préparer juste un match. Et donc, en fait, c'est surtout comment tu t'entoures. Après, il y a l'homme qui est celui qui prend le plus la parole. Il y a celui qui doit être celui qui va prendre les décisions en fin de match, etc. Donc, bien sûr que le head coach, ça reste très, très, très important. Mais moi, je ne sais pas. C'est pour ça que ça ne me dérangeait pas d'avoir quelqu'un qui est forcément un grand nom ou quoi. C'est plutôt quelqu'un qui arrive à faire vivre un vrai staff, coaching staff, tout en insufflant un bon esprit dans le groupe, etc. Tyronn Lue, personnellement, je ne le vois pas là-dedans. Il se faisait complètement dominer aussi, quoi, en plus. Quoi. Moi, j'ai assisté à plusieurs fins d'entraînement où, alors qu'il était en train de prendre la parole devant les médias, LeBron qui dit « Allez, c'est bon, on ferme le rideau, tout le monde part. » Genre, c'est lui qui donne les ordres. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc, à un moment... et puis, en plus, là, il pouvait se le permettre. Tu peux avoir un coach un petit peu de pacotille. J'aurais mis mes comptes avec Tyronn Lue, désolé. Mais t'as un LeBron James qui est un tacticien hors pair, qui a un QI basket de fou, avec les limites et les défauts que ça peut avoir, hein, mais qui, quand même, a cette capacité-là. Kevin Durant et Kyrie Irving, c'est des scoreurs. Mm. Donc, ce n'est pas des créateurs, ce n'est pas des tout ça, dans le sens organisateur de jeu. Donc, je pense qu'il faut un très fin tacticien, mais pas forcément avec un grand nom. S'il l'a, tant mieux. S'il l'a pas, tant pis. Mais Jason Kidd, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez attirant dans tout ça, par exemple. Maintenant, il faut surtout quelqu'un qui arrive à avoir un vrai staff derrière lui pour créer une super culture, une bonne ambiance, des bonnes... c'est pas que créer des systèmes pour l'équipe, c'est aussi arriver à bien scouter l'adversaire, à savoir comment on va jouer chaque soir, et ça c'est un staff, quoi. Donc c'est plus ça qui m'attire, moi, en fait, et qui, je pense, sera primordial dans les succès futurs ou non des Nets.
Et on a eu aussi à une époque cette folle rumeur d'une arrivée, en tout cas un fantasme, de Greg Popovich, justement. Tu vois, t'en parlais juste avant. En gros, ce qui était mis en avant, c'est la relation qu'il a avec Sean Marks, c'est le côté que s'il devait faire une saison supplémentaire, il n'aurait peut-être pas envie d'être dans la reconstruction des Spurs, et que le projet amener les Nets peut-être à gagner, ou en tout cas diriger Kyrie et KD, qui connaît de Team USA, pourrait potentiellement lui plaire. Je parle vraiment au conditionnel parce qu'il n'y a rien de vraiment clair qui est sorti là-dessus. Mais est-ce que, de ton point de vue, et tu suis la NBA depuis plusieurs années maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui ferait sens, en fait, par rapport au profil que tu décrivais?
Alors, ouais, du coup, je suis comme vous, j'ai aucune info vraiment sur est-ce que ça pourrait se faire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que Pop a un vrai respect pour Sean Marks, qui dit que depuis le premier jour, il a trouvé que c'était quelqu'un de très intelligent. C'est le mot qu'il répète à chaque fois qu'on lui demande de parler de Sean Marks, c'est intelligent. Il va le dire, il va le placer à chaque fois. Je pense que vous pouvez vérifier à peu près toutes les déclats. Le mot ressort. Donc il y a un vrai respect. Il y a donc une relation aussi, hein, qui existe déjà. Maintenant, comment tu gères un petit peu les rôles? Ça peut être jouable. Après tout, Archie Bufford à la base, il y a eu, c'est une passation un petit peu, quoi, dans certaines choses, même si c'est toujours une collaboration, un tandem entre les deux. Est-ce qu'il voudrait du coup recréer cette espèce d'ambiance pandémique avec Sean Marks? Ça serait vraiment intéressant, hein, franchement. Après, l'autre dimension, c'est que voilà, quoi, Pop, c'est les Spurs, quoi. C'est, alors, ok, c'est un peu les mêmes couleurs, honnêtement, mais Mais sinon, c'est ça fait quand même bizarre, non?
Ça ferait bizarre,
Moi,
mais
je suis pas fan.
après,
Je suis sceptique.
ce serait quand
Après,
même un fantasme, on parle d'une légende,
il
mais...
aurait les avantages qu'il n'a jamais eu, c'est d'être sur un gros marché où tu peux signer facilement des gros joueurs et tout. Ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Je ne serais pas contre un espèce de. Je ne sais pas, mais en même temps, c'est bizard. Parce que tu
Faut
es
penser
forcément
projet, moi je pense.
un peu comme un joueur que tu aimes rester dans une franchise toute sa vie, c'est, enfin, toute sa carrière. T'es forcément partagé, mais si ça se passe bien, quel kiff! Quel kiff ça serait!
Les Nets sont plus à une surprise près. Hein. Qui l'eût cru il y a un an qu'ils auraient pu signer Kevin Durant et Kyrie Irving dans un même été. Donc Sean
Été dit,
Marks.
Quentin. Ça a été dit, c'est KD, Quentin va me dire si je me trompe, ça a été annoncé dans un headstock.
De quoi, pardon, excuse-moi?
L'arrivée.
La signature de KD, ça a été annoncé dans un headstock. Ah,
Ouais,
vraiment, alors,
c'est
les
Yonim qui
prévisions.
avait regardé droit dans les yeux la caméra et qui avait dit Kevin Durant aux Nets cet été. Ouais, on a déjà eu ce côté. D'ailleurs, son surnom c'était l'Oracle après, pendant très longtemps. Donc voilà, après, malheureusement, je ne l'ai pas encore entendu dire que Pop arriverait cet été. Je peux toujours essayer de lui demander qu'il vienne le dire ici, un de ces quatre, avant que ça arrive. Mais je ne sais pas si ça nous portera chance deux fois de suite.
Et puis, est-ce que comme ça, dans une franchise en construction, parce que ça reste une franchise qui est encore en train de se construire, est-ce que un gars aussi expérimenté, qui a un certain âge, dont aussi les spéculations autour de sa retraite vont bon train à droite à gauche pour dire après les Jeux, ce sera fini. Voilà. Donc, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment ce dont ont besoin les Nets? Moi, je suis pas sûr. Je préférerais quelqu'un à qui on laisse du temps et qui puisse construire tranquillement. Alors, certains pensent à Kenny Atkinson. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Mais voilà, dans ce genre-là, quelqu'un qui puisse avoir le temps de travailler, même si on va être très vite dans le win now, mais des jeunes coachs, il y en a plein. Des gars qui ont le niveau, il y en a plein. Faut voir. Faut voir, mais moi, Pop, sans plus.
Ce sera sur ces mots de fin qu'on va terminer donc ce podcast. Merci en tout cas, Antoine. Merci pour ton temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces prochaines semaines de l'autre côté de l'Atlantique? Une reprise de l'NBA ou non? Plutôt ce que tu me disais en début d'émission. Tu
Ouais,
souhaiterais.
déjà, merci de m'avoir invité. C'était un très bon moment. Donc, vraiment ravi d'avoir pu avoir ces échanges avec vous. J'espère que vous passerez sur place aussi. J'imagine qu'il y a des pèlerinages assez réguliers pour vous, vu l'engagement que vous avez auprès de cette franchise, qui franchement, je ne le dis pas juste parce que c'est pour vous ou quoi. Il y a vraiment quelque chose de très, très intéressant derrière les Brooklyn Nets. Je suis un petit peu effaré quand je vois les Knicks ou les fans des Knicks qui veulent même pas se pencher sur ce qui se passe de l'autre côté du Brooklyn Bridge. C'est vrai, et d'ailleurs, ils devraient en tirer beaucoup de leçons. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Souhaitez-moi juste que comme vous, qu'on arrive à voir la fin de ce virus, qu'on arrive à voir la fin du confinement, qu'on retrouve nos vies et qu'en même temps, on arrive un petit peu à tirer des leçons de cet épisode et peut-être un petit peu tous progresser, ça serait pas mal, non?
Absolument, absolument. C'est une très belle note de fin, Antoine. Merci à vous, merci Quentin, merci Thomas, merci à tous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, partout, vous pouvez commenter et la partager, l'émission. Merci à tous, à très vite, en espérant pour de nouvelles actualités NBA. Et puis, restez chez vous le temps qu'il faut et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, bonne journée.